Bon, donc je vais intervenir sur la question électrique. J'aurais pu appeler ça, j'appelle ça, je crois, le piège électrique, mais j'aurais pu l'appeler le péril électrique ou encore l'illusion électrique. Parce que cette électricité envahit notre univers mental, notre univers justement quotidien. Et donc nous habitons avec l'électricité, elle est omniprésente. Et c'est bien, mais en même temps, cette électricité est devenue l'argument de la transition, l'argument massu. Elle est peinte, elle est repeinte en vert. Repeinte, je ne sais pas, puisque c'était la fée électricité que l'on évoquait au XIXe siècle. Donc c'est un élément de la quotidienneté et de l'avenir, par la notion de transition, qui est central. Et je crois pour habiter le monde, c'est un péril très grave qui nous menace. Alors je vais aller assez vite et je vais peut-être être très simplificateur, puisque j'ai l'habitude de parler plus longtemps. Donc une demi-heure, on m'avait dit, hein, c'est ça.
Non, vous pouvez aller jusqu'à 45 minutes.
Hein. Non, mais si vous... Bon, je fais comme les autres, je me plie à la règle. Donc je vais être peut-être simplificateur, mais justement après la discussion, on pourra revenir sur certaines questions. Alors, je ne vais pas faire ce que je fais quand j'ai une heure, c'est vous demander qu'est-ce que c'est que l'électricité selon vous. En général, personne ne peut répondre. Personne. Je l'ai fait l'autre fois à Sciences Po, personne. Et je double aussi ça de qu'est-ce que l'énergie. Aussi, la personne ne peut répondre. Et même s'il y a des scientifiques et des ingénieurs, là, c'est assez étonnant. Et donc, la première question, c'est une réponse négative que je vais donner. C'est qu'est-ce que l'électricité? Je dirais, c'est d'abord, ce n'est pas une énergie. Ce n'est pas une énergie, c'est même pas une énergie secondaire. C'est un transporteur, c'est pour ça qu'on appelle un vecteur énergétique dans le milieu. C'est une banalité de le dire, mais dans le milieu, tout le monde sait que c'est un vecteur énergétique, mais la plupart du grand public, quand on pose la question, justement, ne le voit pas comme ça. Et sans cesse, on nous reparle de l'énergie électrique, ce qui est un abus massif de langage. Alors, électricité, je ne vais pas vous faire l'histoire de l'électricité, les bâtons d'ombre et tout ça, mais ce qui est important, c'est de voir comment l'électricité a commencé sa carrière dans, justement, l'habitat. Elle a commencé par l'habitat, elle a commencé par l'aspect le plus intime, qui est celui de la maison et plus directement de l'appartement. Elle a commencé en 1881 avec Edison. Et on pourrait dire, moi j'appelle ça aussi, j'ai écrit un article dans une revue, que j'ai appelé le modèle Edison. Parce qu'en fait, il a donné, au fond, la figure la plus claire de ce qu'est l'électricité, mais personne, tout le monde parle d'Edison, mais personne ne va voir ce qu'a fait Edison, enfin ce qu'il y a derrière, la philosophie d'Edison. Et lorsque Edison a voulu lancer, puisque c'était un grand entrepreneur, hein, il a voulu lancer l'électricité en tant que lumière, puisqu'avant c'était le gaz. Il a choisi de le faire à Pearl Street, la rue des gens riches à Manhattan, à côté de Wall Street. Et il a donc offert un millier de foyers la possibilité de s'équiper en ampoule qu'il venait de trouver, la poule à incandescence sous vide. Et donc, il a promis un éclairage qui était plus sympathique que celui du gaz qui laissait des traces sur les intérieurs bourgeois. Donc, il a éclairé ces 1000 foyers. Et ces foyers, effectivement, ont été émerveillés parce qu'il n'y avait pas, justement, de traces, il n'y avait pas de pollution sur les tapisseries et sur les murs. Il n'y avait plus de pollution. Donc, c'est formidable, cette énergie, elle est sans dommage. Mais, à quelques kilomètres de là, il y avait l'usine thermoélectrique qui était là, et cette usine, elle produisait 5 tonnes de scories par jour, qui étaient jetées dans le Hudson River. Donc, en fait, Ce qu'a le modèle Edison, c'est le modèle de la délocalisation de la pollution. C'est je ne pollue pas sur place, je pollue ailleurs. Mais je pollue. Je commence toujours par là, en général. Qu'est-ce que c'est que la société thermo-industrielle? Parce que là, bon, je travaille sur l'électricité, mais j'ai d'abord...
Allez-y, continuez, je vais juste me mettre en plein écran.
D'accord. Après, je peux revenir parce que j'ai besoin de voir. Mais...
Oui, tout à fait.
Comment je reviens?
Non, voilà. Parce que... juste pour qu'on y voit. Parce que...
Ah oui, d'accord. c'est la société thermo-industrielle sur laquelle se calque le modèle électrique, c'est une société qui est fondée sur une nouvelle puissance, celle d'une force cachée dans le fossile, cachée dans le charbon au départ. Et donc le modèle qui préside à la technologie de cette société, c'est un modèle, je le reprends, c'est un truc que je radote un peu parce que ça fait très longtemps que je l'ai sorti, mais ça fait rien, je pense que vous ne le connaissez peut-être pas. En tout cas, pour moi, c'est important pour placer l'électricité dans son domaine. La société thermo-industrielle dans laquelle nous sommes et nous sommes toujours. Et c'est là-dessus que je vais insister aussi. Je suis venu à l'électricité par la thermo-industrie. Mais le début de l'industrie, ce fut le charbon. Le charbon, c'est le feu, c'est la machine de Watt, etc. La machine de Watt et surtout le train ensuite. Et donc, là, dans ce modèle de l'énergie, vous extrayez une substance, bon, le charbon, le pétrole, le gaz, ce que vous voulez, vous gardez la puissance. C'est ça la nouveauté par rapport aux autres énergies qu'on utilisait auparavant. On garde la puissance et on la transfère pour son usage à volonté. C'est-à-dire qu'on apporte cette énergie à l'endroit où on a de la main-d'œuvre, ou inversement, on fait venir la main-d'œuvre quand les trains existeront. Vous voyez, donc, il y a ici une nouvelle capacité d'action de l'homme qui modifie radicalement notre rapport au monde. Et ainsi, vous avez une faculté pour l'homme moderne d'utiliser sa puissance où il veut, quand il veut. Le problème avec l'électricité, c'est que, vous allez voir ça après, ce modèle-là marche bien, semble bien marcher, sauf que la substance qui contient l'énergie, c'est pas l'électricité, c'est ailleurs. Ensuite, retenir et stocker la puissance, c'est pas possible, parce que c'est un fluide, c'est quelque chose qui est évanescent, l'électricité. Et par conséquent, on ne peut pas la garder. On peut la garder, évidemment, c'est tous les efforts actuels, dans des engins qui sont très lourds, très peu maniables, très peu rentables sur le plan de la production, qui sont les batteries. Alors vous avez aussi l'eau, on en reparlera tout à l'heure. Mais vous voyez, le problème, quand on prend ce modèle sur lequel se fonde la thermo-industrie et la modernité contemporaine, eh bien, l'électricité correspond apparemment à ça, puisque c'est retenir, stocker la puissance, transférer, c'est génial, puisque vous appuyez sur un bouton et vous avez toute la puissance du monde. Enfin, vous avez toute une puissance à votre disposition immédiatement. Mais en réalité, c'est pas elle, c'est quelque chose qui est ailleurs. Donc elle ne fait que transmettre une puissance qui est ailleurs. Voilà, donc c'est ça que je voulais bien montrer au départ. Donc ce modèle Edison, il va se transformer en un système technique d'un nouveau genre. Le modèle Edison, ça va devenir, avec Westinghouse, qui, vous savez, a fait faillite récemment, il va devenir le modèle des réseaux. Avec les chutes du Niagara, on va donc construire la première usine hydroélectrique véritable. Et on va inventer un nouveau mode d'agir de l'énergie qui est le réseau. L'électricité moderne, c'est le réseau. Edison n'avait pas pensé comme ça, hein. Il voulait du 12 volts, puis c'est tout. Et grâce à la haute tension, on a pu développer des réseaux parce que ça permettait d'aller plus loin, de transférer l'électricité plus loin. Donc cette transformation de l'électricité d'une aide autonome à l'habité immédiate, c'est devenu quelque chose qui se répandait sur une très grande surface. Et alors, très vite, vous avez là l'illustration de ce que j'appelle les macrosystèmes techniques. Les macrosystèmes techniques, est-ce que j'ai, je pense, pour simplifier, je préfère vous donner. Ah oui.
Vous appuyez sur le bouton de droite, en fait. Il faut appuyer sur le bouton de gauche. Ah,
de droite ou de gauche ?
Sous le pavé. Celui de gauche, il faut appuyer.
Oui, mais c'est celui de gauche. Bon. Ah oui, voilà. Bon, j'ai fait ça un peu rapidement. Les réseaux, c'est une chose. Mais les réseaux, ce sont des lignes de circulation. Or, ces réseaux sont intégrés dans un ensemble qui est nouveau. Parce que ces réseaux, qu'on peut appeler le macrosystème technique, parce que c'est un système technique sur lequel on contrôle les flux. Le premier modèle de ce macrosystème technique, ce fut le train, qui, grâce à l'électricité, justement, grâce au télégraphe, a pu contrôler les flux. Ce qui était absolument nécessaire, surtout quand il y avait des voies uniques. Donc, le train, c'est le premier modèle du macrosystème technique. Jusque-là, quand on se transportait, il y avait des réseaux de diligence, par exemple. Mais les gens qui menaient les diligences, ils résolvaient les problèmes dans le lieu précis et en temps qu'ils décidaient eux-mêmes, dans le temps qu'ils décidaient eux-mêmes. Alors qu'à partir du moment où arrive le train, le télégraphe, ce n'est plus le conducteur qui décide, c'est par exemple l'agent qui reçoit un télégramme en disant qu'il ne faut pas que le train parte, il y en a un qui va passer, ainsi de suite. Il avertit que le train est passé, ainsi de suite. Donc c'est un début de contrôle. Mais c'est avec le système électrique que ce macrosystème technique va prendre une ampleur fabuleuse, jusqu'à devenir aujourd'hui un énorme toile d'araignée. Alors je vais vous donner simplement un exemple. Tiré d'un livre. Alors, c'est celui-là. C'est celui-là. Voilà, il y a un livre qui s'appelle Blackout, qui est de Mark Ellsberg, un best-seller, c'est un livre allemand, mais qui a été traduit en 2012, mais qui a été traduit en français en 2016, qui raconte une panne générale en Europe, suite à un complot. Et des hackers. Ce livre est fabuleux parce qu'il montre combien nous dépendons de l'électricité. Si jamais il y avait une panne générale électrique, on ne pourrait plus tirer de l'argent, on ne pourrait plus faire. On aurait des tas de choses évidentes, mais par exemple, on n'aurait plus d'eau non plus parce que les pompes fonctionnent à l'électricité. Avant, on avait des châteaux d'eau, c'est par la gravitation que ça fonctionnait. Maintenant, c'est par l'électricité. Donc, on n'aurait plus d'eau. Les water closets, les WC ne marcheraient plus. Vous vous rendez compte, dans une grande ville, ce qui se produirait. Cette dépendance à l'énergie électrique, elle est fabuleuse. Et il y a une fragilité de ce système du fait que, justement, c'est un système qui est régulé par des interactions constantes. Et là, il raconte comment... il vous explique ce que c'est que l'électricité. Je préfère le laisser Mark Ellsberg, c'est un auteur qui sait bien dire les choses simplement. Vous voyez l'ingénieur dont il parle, là, Oberstetter, il n'avait jamais compris lui-même, il est ingénieur, que tout ça, ça dépendait de notre source extérieure. Vous voyez voilà, ça c'est... un cas de macrosystème technique, je pourrais en parler d'autres, là, le système aérien en est un aussi, tout ça. Mais là, on parle d'électricité. Donc c'est un macrosystème technique qui doit être régulé en constamment. Et c'est ainsi que, quand on dit qu'on reçoit de l'électricité de l'Oural, en fait, c'est pas ça, c'est un système de domino. Hein, la Russie envoie de l'électricité à côté d'elle, disons à la Pologne, je simplifie, la Pologne en Allemagne et l'Allemagne en France. Hein, c'est un système, parce qu'on ne peut pas envoyer très très loin. 2000 km avec les lignes à 800 000 volts, c'est le maximum. Donc en réalité, c'est un système de dominos. Et on joue sur les différences d'usage. Je vais revenir là-dessus. L'autre cas, c'est justement l'explication par Mark Asberg du réseau électrique. Ça fait bien comprendre comment fonctionne, comme dans un corps humain, sauf que là, c'est sur une surface gigantesque. Voilà. Donc, vous voyez, les lignes à haute tension sont comparables à l'aorte. On peut transporter de grandes quantités sur de longues distances. Et ensuite, des lignes à tension plus basse qui continuent d'acheminer le courant jusqu'à des réseaux régionaux quand ils auraient 16 heures finies. Donc, vous avez tout un ensemble de réseaux. C'est très, 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 très complexe. Or, la complexité, c'est aussi un signe de fragilité. Alors maintenant, pour terminer là-dessus, voilà comment ça fonctionne. C'est, vous avez un rotor au milieu d'un aimant. Alors le rotor, c'est du cuivre, ou maintenant dans les éoliennes du néodyme. C'est donc un système qui fait tourner un bloc au milieu et qui produit le courant, ce qu'on appelle... En fait, l'électricité, c'est de l'électromagnétisme. Et c'est l'aimant extérieur qui avec le fil de cuivre central, produit l'électricité. Donc, pour actionner ce rotor, il faut de l'énergie. C'est ce qu'explique, c'est ce que disait Asberg dans un de ses... Là, je vais un peu trop vite. Bon. Donc, on est actionné par des arbres d'acier de la largeur d'un tronc. Ils sont reliés à la turbine Kaplan au-dessous d'eux. C'est le rotor que vous avez vu. Hein. Donc, vous voyez, c'est une énorme puissance qu'il faut pour faire tourner ces rotors. Donc, l'énergie qui en sort, c'est une énergie qui est beaucoup moins importante que celle qui était au départ. Il y a une perte mécanique, une perte qui est très importante, qui peut atteindre 60% dans certains cas, mais qui est bien de 30% en général. Donc vous voyez, quand on dit l'électricité, c'est quelque chose qui ne se perd pas, qui est, on reviendra sur la voiture électrique après, mais quand on dit, c'est la rentabilité énergétique de cet élément, ce vecteur énergétique est très grande parce que c'est 80% pour un moteur, on dit que c'est entre 70 et 80%, alors que pour le moteur thermique, c'est 30-35% de l'énergie. L'énergie est perdue, 65% d'énergie est perdue dans le moteur thermique qui marche avec l'essence. Alors qu'avec avec l'électricité, c'est 70-80%. Disons. Mais avant, pour fabriquer l'électricité, il y a une perte. Celle-là, on l'oublie. N'est-ce pas? Voilà, donc vous avez ici le modèle de base du système électrique dans lequel nous sommes entrés il y a à peu près un siècle. Avant Edison, ce n'était pas un système électrique. Il y avait l'électricité qui fonctionnait avec des arcs électriques, par exemple la nuit, à l'exposition universelle, c'était surtout ça, en 1881. Mais il n'y avait pas de réseau. À partir d'Edison, et surtout des chutes du Niagara, juste avant 1900, commence vraiment le système électrique. C'est un nouveau macro-système, et un nouveau système technique. Je vais mettre une page blanche. Donc, peu à peu, s'est développée une civilisation qui s'est fondée sur cette énergie, comme l'on disait, et qui a envahi, après la Deuxième Guerre mondiale, l'ensemble de notre consommation quotidienne. La consommation d'énergie, elle est essentiellement électrique en dehors des voitures. Mais dans l'habitat, c'est surtout l'électricité et secondairement le gaz. Dans les pays du Nord, c'est l'électricité presque uniquement, même pour les cuissons des aliments. Vous avez donc ici une apparition d'un nouveau mode d'être, d'une nouvelle manière de se comporter dans le monde, par la toute-puissance qu'apporte avec elle cette... Alors, je vais laisser les énergies pour simplifier, parce que pas à chaque fois, ce vecteur énergétique, etc. Mais enfin, qu'apporte avec elle cette pseudo-énergie. Et leur sentiment de toute-puissance que nous avons depuis le début de la société thermo-industrielle, depuis le début du 19e siècle, il est agrandi, accru d'une manière extraordinaire. Ça, c'est un effet d'électricité, mais le second effet, c'est qu'on a l'impression qu'on est enfin libéré de la pollution. Et en même temps, se greffent les nouvelles technologies, les technologies du numérique, qui sont fondées sur la même pseudo-énergie. Vous avez donc un ensemble qui pousse à l'usage presque hyper intensif, mais presque unique. Au fond, on va convertir tous les modes d'être de l'énergie en un seul mode d'être, qui est celui de l'électricité. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans le mix électrique qui est le nôtre, 80% de l'électricité est produite par l'énergie fossile. 80%. Ça n'a pas changé depuis 20 ans. Mais en même temps, on consomme 4 fois plus d'électricité qu'en 1975, quand l'Agence internationale de l'énergie s'est intéressée à l'électricité. 4 fois plus d'énergie électrique qu'en 1975. Nous avons donc une situation où l'énergie a pris la place à remplacer l'électricité, pardon, à remplacer toutes les autres énergies. Le charbon est ainsi devenu un élément essentiel de la production électrique. Donc, qu'est-ce que vous avez comme différents... Les différents modes de la production électrique aujourd'hui sont le charbon, le pétrole, le gaz, et vous avez le nucléaire et l'énergie renouvelable. Le charbon, qui était redescendu... Alors, je pense que justement, on est dans l'illusion, le malentendu, ou la tromperie absolue, parce que la COP21, donc, a été signée par l'ensemble des pays, et même si Trump aujourd'hui fait machine arrière, la Chine a signé, et la Chine s'est engagée à ne pas dépasser le seuil, je ne sais plus lequel, en 2030. Bon, sauf que la Chine produit pratiquement chaque semaine une nouvelle centrale thermique électrique. Que la Chine développe des réseaux à très grande distance avec une tension qui était inimaginable avant de 1 100 000 volts. Actuellement, en Europe, c'est 800 000 volts. Le maximum, c'est la ligne qui va vers l'Espagne qui vient d'être construite. À la Chine, c'est 1 100 000 volts. Donc, avec ces réseaux, on va pouvoir alimenter, ça permet d'alimenter à 3 000 km. Or, ces réseaux sont fondés sur le charbon de la Mongolie intérieure. Et s'ils ont besoin d'une telle distance et d'une telle puissance dans la tension, c'est parce que la Mongolie intérieure est très éloignée des grands centres industriels, Shanghai, Pékin, Canton. Et ainsi, donc, le charbon du Xinjiang sert à alimenter les villes.